Vous avez dû remarquer aussi qu'il y a un autre changement dans l'industrie automobile, c'est qu'il y a une prolifération des types de voitures. Il y a des voitures premium, il y a des voitures entrée de gamme, mais les gammes de voitures, quand on regarde le groupe BMW par exemple, il avait 7 modèles je crois il y a 15 ans, il en a 40 dans 3 ou 4 ans. La Mini que vous connaissez, il y a 6 types de voitures différentes dans la Mini, il y en avait un il y a moins d'une dizaine d'années. Et cette prolifération de gamme permet aux clients de s'adresser ou d'adresser des clientèles de plus en plus précises, de manière à offrir à ses clients le type de produit dont ils pensent qu'ils ont besoin, et donc de pricer ces produits de façon beaucoup plus spécifique sur chacun de ces segments de marché. Donc il y a une segmentation du marché beaucoup plus grande. Donc quand on dit segmentation du marché, il y a automatiquement une complexification. Et nos grands clients, où tous nos clients sont en train d'avoir des approches extrêmement modulaires. C'est-à-dire, quand ils segmentent le marché, ils utilisent des modules qui permettent d'être transversaux par rapport à leur modèle. Et le plus en avance, c'est aujourd'hui le groupe Volkswagen qui, sur les 10 millions de voitures, a 3 grandes plateformes et donc produit de l'ordre de 3 millions de voitures par plateforme. Il faut savoir que la marque Renault ou la marque PSA produit 3 millions de voitures. Et donc vous voyez que les plateformes d'une très grande taille leur permet d'avoir des prix plus bas, et pour nous permet d'avoir des marges équivalentes, non pas au niveau de marge brute, mais en termes de marge brute moins les coûts de R&D, les coûts de développement spécifiques, puisque bien entendu qu'on développe un produit pour 200 000 voitures ou pour 3 millions de voitures, les coûts de développement sont exactement les mêmes. Donc on est dans une situation où nos marges sont à peu près équivalentes, en regardant marge brute moins frais de R&D spécifiques. Par contre, le prix pour le client est sensiblement plus faible. Mais il y a un effet induit. Qui dit des plateformes plus grandes, dit quand il y a un grain de sable dans le rouage, les rappels de voitures deviennent importants. Alors les rappels ont été extrêmement importants en 2014, à une période où les marchés étaient segmentés, mais les plateformes pas encore présentes. Rien qu'en Amérique du Nord, il y a eu 72 millions de voitures rappelées. 72 millions de voitures rappelées. Ça représente plus de 4 fois la production de l'année dernière, et ça représente près d'un tiers du parc de voitures aux États-Unis. Massivement. Je suis incapable, peut-être que vous l'avez, mais je suis incapable de savoir combien de voitures ont été rappelées en 2014. Quand on fait la somme de tout ce qu'on a lu, mais on ne sait pas s'il y a des doubles comptes ou pas, parce que c'est un peu compliqué, c'est probablement de l'ordre de la production automobile l'année dernière, qui est 85 millions de voitures, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. Et le fait qu'il y ait eu autant de rappels rend nos clients extraordinairement paranoïaques. Il y a eu des rappels, il y a eu bien entendu des coûts qualité importants, et il y a eu surtout aux États-Unis, qui est extrêmement juridique comme approche, un certain nombre de procès et des class actions derrière, qui a coûté à la fois en amende et en class action des sommes considérables à nos clients. Je crois que GM a provisionné l'année dernière 3 ou 4 milliards de dollars pour faire face à la fois aux procès et aux class action qui risquent d'avoir uniquement sur le marché américain. Donc, un marché en croissance, une redistribution des cartes, une segmentation des marchés et des risques qualité, donc une paranoïa de nos clients sur l'aspect qualité, sur l'aspect sécurité et surtout sur l'aspect fiabilité pendant l'ensemble de la période de vie du véhicule.